بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. Toutes les louanges vont à Allah, mes frères. Allah, le Seigneur des mondes. Toutes les louanges vont à Allah. Nous le remercions pour tous ses bienfaits et nous lui demandons de nous combler d'encore plus de ses faveurs. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah, Allah l'unique, sans associé. Et j'atteste que notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est son envoyé et son serviteur. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous allons tenter de faire, inshallah, un rappel ce jour concernant le magnifique voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque jusqu'à Al-Quds, Jérusalem, et ensuite de Jérusalem, de la mosquée d'Al-Quds, jusqu'au septième cieux et au-delà des septièmes cieux, jusqu'au jujubier de la limite. Nous n'allons pas nous borner, Inch'Allah, à compter les faits. Chacun d'entre vous connaît l'histoire. Nul besoin de rappeler les faits de A à Z. Simplement, ce que le Cheikh Mohammed a essayé de faire, c'est de mettre en lumière quelques-unes des leçons qui sont tirés du voyage nocturne et de l'ascension vers les cieux. Tout d'abord, sachez que la date précise du voyage nocturne et de l'ascension vers les cieux n'est pas connue réellement. On n'est pas sûr que ce voyage ait eu lieu pendant le mois de Rajab, c'est-à-dire le mois en cours, mais beaucoup de savants pensent que c'était pendant le mois de Rajab, bien que personne n'en soit sûr. Dans tous les cas, il n'y a aucune adoration, que ce soit jeûne, prière ou autre chose, qui soit spécifique à la nuit de l'Isra ou le Mi'raj ou au mois de Rajab tout entier. Il n'y a aucune spécificité à ce mois-ci, si ce n'est une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé à Allah le Très-Haut, qui lui a demandé de mettre la bénédiction dans le mois de Rajab et dans le mois de Sha'ban et qui lui a demandé de le faire atteindre le mois de Ramadan. C'est la seule dua qui est connue spécifique au mois de Rajab. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière spécifique, et ceux qui entrent dans ce genre de pratique risquent de rentrer dans des bid'as, des innovations. Donc la première leçon à laquelle a fait référence le Cheikh aujourd'hui, c'est l'époque où est arrivée cette nuit de l'Isra al-Mi'raj. C'était une époque de grande difficulté pour le prophète, alayhi salatu wassalam. C'était suite à l'année de la tristesse où est morte sa femme Khadija, radiyallahu anha, ainsi que son oncle. Et il était juste après l'année de la tristesse, et il venait de se faire jeter avec des pierres par les enfants du village de Taif. C'est-à-dire qu'il était dans une époque de tristesse où les gens de la terre refusaient le message. Et une formulation qui est très belle par le Cheikh qui dit que les habitants de la terre ont refusé le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah le Très-Haut lui a offert comme cadeau le fait que les habitants du ciel l'accueillent. Ceci était donc dans un contexte d'épreuve. La première leçon est que le croyant, quand il est dans l'épreuve, eh bien, le meilleur de ses croyants est celui qui retourne à Allah, celui qui a une adoration sincère, celui qui compte sur Allah avant toute chose, celui qui a l'yaqin, la certitude que Allah va ouvrir les portes du bien après la difficulté. Comme dit le Coran, après la difficulté, il y a la facilité. Et ce qu'il faut voir, c'est que le prophète sallam a fait une dua après être rejeté par les habitants de Taif, eh bien cette dua a été acceptée par Allah et il l'a réconforté en l'envoyant aux cieux. En arrivant, donc le prophète sallam est parti de Mecca sur un animal nommé Al-Buraq, dont la taille est située entre le cheval et l'âne, et cet animal, en une enjambée, pouvait parcourir la distance que l'œil peut voir. Donc le prophète sallam est parti de Mecca jusqu'à Al-Quds, jusqu'à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, Allah l'a gratifié par la vue de l'ensemble de tous les prophètes d'Allah qui étaient là. Ils ont fait une prière commune, une prière que le prophète alayhi salat wa salam a présidée. Voyez l'importance que le prophète alayhi salat wa salam a vis-à-vis de tous les autres prophètes. Cela nous enseigne également que l'ensemble de tous les prophètes avaient quelque chose en commun qui est cet appel à Allah, cette da'wah ila Allah, cette da'wah vers le tawhid, vers la ilaha illallah. Et ce message est commun à l'ensemble des prophètes, ce qui nous prouve l'universalité du message islamique. Lors de l'ascension, lorsque le prophète alayhi salat wa salam est monté vers les cieux et au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert les prières quotidiennes. Au départ, Allah le Très-Haut a demandé à son prophète de demander à ses fidèles de faire 50 prières par jour. Par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, eh bien, nous avons 5 prières quotidiennes à faire par jour et elles sont comptabilisées comme si nous en faisions 50. Le fait que la prière ait été prescrite d'au-dessus des 7 cieux prouve l'importance de cette adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la prière à son prophète alayhi salatu wassalam sans intermédiaire. Depuis l'endroit le plus élevé où a pu arriver un être humain, au-dessus des 7 cieux, il lui a prescrit les 5 prières quotidiennes et elles comptent pour 50. Cela montre l'importance qu'a la prière auprès d'Allah le Très-Haut. Et elle est le deuxième pilier de l'islam, juste après l'attestation de foi. Nous nous devons, chers frères et chères sœurs, d'accorder à la prière le caractère sacré qu'elle renferme, en la pratiquant de manière parfaite, avec ses conditions, avec ses obligations et à l'heure de préférence. La prière sera alors une lumière pour nous dans cette vie d'ici-bas et une protection le jour du jugement dernier. D'ailleurs, lors de l'ascension, on a montré toutes sortes de gens au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu les prophètes, il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Et parmi ces gens-là, il a vu des gens à qui on cassait la tête, littéralement, vraiment. On cassait la tête avec un gros caillou et ensuite la tête se reformait et on recassait la tête de ces gens-là et ensuite la tête se reformait, etc., éternellement. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Jibril, qui sont ces gens-là ? Jibril, alayhi salam, lui a répondu, ces gens-là sont ceux qui, quand ils étaient sur terre, délaissaient la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également vu d'autres sortes de supplices. Il a vu des gens qui mangeaient d'une plante immonde, puante et pleine d'épines. Et lorsqu'il a demandé à Jibril, alayhi salam, qui sont ces gens-là ? Il a dit, eh bien, ces gens-là sont ceux qui refusent de donner l'aumône obligatoire, c'est-à-dire la zakat. Il a vu également des gens qui mangent de la viande pourrie, alors qu'on leur proposait de la viande qui était bonne à manger. Après avoir demandé à Jibril alayhi salam qui étaient ces gens-là, Jibril alayhi salam lui a dit que ces gens-là étaient ceux qui s'adonnaient à la fornication sur terre. Donc le prophète s'en a vu des choses atroces concernant les gens qui désobéissent à Allah, mais il a vu également des choses qui l'ont contenté. Par exemple, il a pu découvrir que le plus grand nombre des habitants du paradis sont ceux de sa communauté à lui, c'est-à-dire les musulmans, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à un tel point que cela rendit triste le prophète Moussa alayhi salatu wa sallam, car sa communauté à lui avait un nombre moindre que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit également des gens qui semaient des graines un jour et le lendemain, la récolte était déjà là. Et le surlendemain, ils ressemaient des graines et ils avaient des récoltes de jour en jour de plus en plus importantes. Ces gens-là, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam demanda à Jibril alayhi salam qui sont ces gens-là, il répondit, eh bien, ces gens-là sont ceux qui donnent pour Allah, sont ceux qui donnent fi sabilillah. Allah remplace ce qu'ils ont donné par ce qu'il y a de mieux pour eux. Ceci est la promesse d'Allah. Après être passé au-dessus des 7 cieux, Jibril alayhi salam laissa le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était sur le point d'accéder à ce qu'on appelle en français le jujubier de la limite, Sidrat al-Muntaha. Je ne pense pas qu'il y ait de traduction autre que celle-là. Et Jibril ne pouvait entrer, car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de l'accompagner, il dit, eh bien moi, si j'accède avec toi, je serai entièrement brûlé. Donc, il n'y a que toi qui peux accéder à cet endroit. Là, nous voyons que l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dépasse toutes les créatures. Il dépasse par son importance le degré des êtres humains. Et là, cette nuit-là, nous voyons qu'il dépasse même le degré des anges, puisqu'il accède à un endroit où même les anges n'ont pas accès. De retour vers la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'eut aucune hésitation à raconter son voyage qui était invraisemblable pour les autres, traverser de la Mecque à Jérusalem en une nuit, aller et retour, monter vers les cieux, etc. Personne ne pouvait le croire parmi les Quraysh non musulmans. Malgré tout, il n'a pas hésité à raconter ce qu'il a vu. Il a eu le courage de le faire car il avait ce souci de da'wa ila Allah, ce souci d'appel à Allah qui fait que pour la vérité, il ne va jamais s'abstenir, il ne va jamais hésiter. Cela, le Cheikh Mohammed nous dit que ça doit être une leçon pour nous, pour tout croyant qui appelle à Allah, de ne jamais hésiter dans la vérité. Et d'ailleurs, les gens qui appellent à Allah ne sont pas les chouyours, les du'ats officiels. Chacun de nous a un devoir d'appel à Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset ». D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrit Al-Quds, la mosquée de Jérusalem, eh bien, Allah fait qu'elle s'affiche devant ses yeux comme s'il y était assis. Pourquoi ? Parce que Allah assiste toujours ceux qui lui obéissent et Allah assiste toujours ceux qui agissent pour le bien et pour la religion. Cela nous indique également, à nous autres musulmans, l'importance de Jérusalem et de la mosquée d'Al-Quds. Le choix de la mosquée sacrée d'Al-Quds est un message pour nous, communauté musulmane, car il s'agit de l'endroit que Allah a choisi comme arrivée pour le voyage nocturne et comme rampe de lancement vers l'ascension vers les cieux. Cela met en évidence à chaque musulman la responsabilité vis-à-vis de la mosquée sacrée de Jérusalem. Nous devons avoir un souci pour Al-Quds. Nous devons l'avoir dans nos prières et également dans nos dons, mes frères. Jamais nous ne devons mettre de côté Al-Quds. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين